C'est un solitaire qui aime les rencontres, un aventurier qui n'a pas peur de la vie à la dure, un écrivain voyageur qui décidément a le Mississippi dans la peau.
De vive voix.
Chantal Laureau.
Bonjour Eddy Harris.
Bonjour Chantal.
On est ravis de vous recevoir en direct dans De vive voix. En 1985, vous aviez descendu en canoë ce fleuve mythique qu'est le Mississippi, ce qui vous avait inspiré Mississippi Solo. 30 ans après, vous avez réitéré l'exploit, toujours seul, vulnérable et noir de peau. Le récit de cette seconde traversée fluviale de l'Amérique a pour titre le Mississippi dans la peau et il est paru chez Liana Levy. Alors pourquoi avez-vous eu envie à 60 ans de descendre à nouveau le fleuve en canoë?
En partie pour me retester, savoir si à 60 ans, j'avais les forces, la capacité de refaire quelque chose que j'avais fait jeune. Mais plus importante, c'était de toucher les États-Unis que j'avais quittés il y a quelques années. Et je voulais retourner voir si, en fait, l'élection d'Obama, qui était dans son deuxième mandat quand j'étais sur le fleuve la deuxième fois, si l'élection d'Obama signifiait quelque chose de bien. Ou si, avec la déception de cette présidence, ça ouvre la voie à une personne comme Trump.
On va y revenir. Je vous cite, « Plus âgé, on s'attache plus au sens qu'à la prouesse. » C'était ça aussi le fait que vos deux démarches étaient un peu différentes entre 1995 et 2015.
Absolument. C'était une question pas seulement de savoir si j'avais les capacités, mais de savoir qu'est-ce que ça veut dire de refaire un voyage ou un exploit comme ça.
Vous écrivez « J'étais allé au fleuve pour entendre les battements de mon cœur, éprouver la peur et l'excitation qui me ferait me sentir en vie pendant le voyage et longtemps après ». Donc en fait, cette seconde descente à risque du Mississippi, c'était plus qu'une envie. Vous en aviez besoin, vous manquiez d'adrénaline ?
Moi, ça, peut-être que ça faisait partie du jeu. Mais ma vie, normalement, ma vie est pleine d'adrénaline. C'est pas quelque chose qui me manque. Je suis toujours dans les épreuves de quelque chose. Je me teste chaque jour. Et je voulais savoir, oui, bien sûr, si j'avais dans mes tripes, la capacité de refaire le voyage, mais en même temps, c'était plus le pouls des États-Unis que je voulais toucher. Mm-hmm. Je voulais savoir où est le battement du cœur du pays.
Et combien de temps vous a-t-il fallu pour parcourir ces quelques 4000 kilomètres le long d'une dizaine d'États, c'est bien ça?
Oui, la deuxième fois, 4 mois.
Donc c'est vraiment une performance physique.
Et sans expérience, aussi inexpérimentée la deuxième fois que la première fois. Parce qu'entre les deux voyages, je ne me suis pas mis dans un canoë.
J'ai une question un peu de profane. Est-ce que c'est important de garder une vitesse de croisière ou au contraire, est-ce qu'il faut parfois casser le rythme? Parce qu'à plusieurs reprises, vous racontez que vous pagayez à toute vitesse et en vous lisant, on se demande un peu pourquoi, parce que vous avez tout le temps...
On n'a pas tout le temps, surtout à 60 ans quand j'ai fait ce voyage. Le temps est bien plus court que la première fois. La première fois, j'aurais pu prendre mon temps. Mais finalement, je voulais faire ce voyage. En fait, le premier voyage était en 2 mois, pas 4. Donc j'étais beaucoup plus rapide parce que je voulais terminer le voyage le plus vite que possible, simplement parce que c'était difficile. La deuxième fois, la même difficulté, mais je voulais prendre plus de temps, sachant en même temps que de me retirer de la vie et après de reboucher les trous que j'avais créés, c'est plus difficile à 60 ans qu'à 30 ans.
Vous avez beau avoir l'expérience de la première descente du fleuve, de sa source à son embouchure, un fleuve auprès duquel vous avez grandi, vous dites avoir rencontré la peur, une peur que vous liez aux avertissements que vous donnait votre père quand vous étiez enfant. Il ne fallait pas traîner dans la partie Blanche-Neige de Saint-Louis.
Il y a ça, cette peur aussi, la peur du fleuve, mais là aussi la peur du monde blanc. Mon père avait une autre vision du monde que ma mère. Mon père était un homme noir dans les années 30, 40, 50, où il avait pas seulement lu et connu des choses, mais il a vécu des choses abominables. Donc son expérience, il voulait transmettre à ses enfants, moi et mon frère, pour dire que la vie est dangereuse, fais gaffe.
Eddy Harris, j'aimerais bien que vous nous lisiez justement cet extrait de votre livre.
Il n'y avait pas besoin de prendre le vent, ni de humer l'air pour sentir le fumée du racisme. Nul besoin de sortir son antenne pour le capter, ou de soulever les pierres à la recherche des signes ou des indices subtils. Aucun risque non plus de se laisser aller à des soupçons infondés. L'intolérance et la discrimination s'étalaient au grand jour. Elles se lisaient partout, sous les enseignes et les affiches. Réservées aux Blancs, chiens bienvenus, interdits aux Nègres, aux Portoricains et aux Juifs. Si vous sortez du rang par une après-midi d'été ensommeillé, comme Emmett Till, 14 ans, à Money, Mississippi, vous risquiez de finir en chair à la pâtée, mutilé, flingué, ficelé en morceaux de fonte, jeté dans le fleuve pour y mourir noyé si vous n'étiez pas déjà mort. Vous évitiez les routes si vous vouliez être sauf. Vous restiez hors de vue ou en marge. C'est cela l'objectif de la terreur. Vous rendre craintif, vous faire croire à la peur et vous confiner à domicile. Pour être sauf, il suffisait de se cacher, de se rendre invisible, de ne jamais aller à l'opéra ou au théâtre, ni dans aucun lieu où on n'était pas censé vous trouver. Les bons jobs, les meilleurs restaurants, les plus beaux quartiers, les clubs, les parcs, les piscines, les écoles, les bois et le fleuve. Restez à l'écart de la vie, ne vivez pas et vous n'aurez jamais peur. Sur le siège arrière de sa voiture, mon père avait toujours un fusil. Ma mère ne croyait pas à cette peur-là. Elle ne s'interdisait aucun lieu, ni aucune activité. Elle croyait à l'avenir. Elle croyait que le meilleur existait. Mais il ne viendra pas toi. Il ne viendra pas à toi, me disait-elle. C'est à toi d'aller le chercher. Et pour le trouver, tu dois regarder devant toi, jamais en arrière, où est impossible d'aller. De toute façon, tu n'as pas le choix. La marche arrière n'existe pas. Tu ne peux qu'aller de l'avant, jamais en reculant.
Eddy Harris, finalement, c'est votre mère qui vous a influencé. L'inconnu, le voyage, l'aventure, le risque vous ont toujours attiré?
Mon père aussi, il était un aventurier, même avec son passé un peu difficile. C'est lui qui a voyagé beaucoup dans la famille. C'est lui qui m'a pas forcément encouragé, mais c'est lui qui m'a donné l'envie de voyager comme ça. Et ma mère, oui, elle était l'encouragement dont j'ai eu besoin. Donc elle m'a poussé vers l'avant.
Est-ce que c'est de vos lectures de Mark Twain qu'est née votre fascination pour le fleuve, pour
pas
le Mississippi?
Tout. Pas du tout. Ça, c'est trop cliché et trop facile. C'est le fleuve lui-même. C'est le fait que pratiquement tous les jours dans mon enfance, j'étais à côté du fleuve. Nous n'avions qu'une seule voiture. Ma mère déposait mon père au boulot et chaque matin, elle était amoureuse de Saint-Louis, amoureuse du fleuve, et on passait devant le fleuve et elle m'a montré des choses. Donc ma relation avec le fleuve était bien avant d'avoir lu Mark Twain.
Mais vous avez lu les aventures de Huckleberry Finn,
bien sûr.
Tom Sawyer.
Oui.
Aujourd'hui, ce livre, Les aventures de Huckleberry Finn, est interdit dans les écoles de Virginie, par exemple, pour racisme. Même chose pour Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Est-ce qu'on leur fait un faux procès, selon vous, ou pas?
Bon, ça m'agace énormément. Deux livres qui sont extrêmement, pas seulement importants, mais très bien écrits. Et je ne vois pas pourquoi on peut éliminer ces livres de l'éducation des jeunes personnes. Et surtout les deux, Huckleberry Finn et To Kill a Mockingbird. Ce sont des livres qui sont... To Kill a Mockingbird, c'est peut-être un de mes livres préférés.
Alors comment vous expliquez cette cancel culture qui se propage?
C'est un peu... Je ne sais pas si c'est la cancel culture, mais c'est une question plutôt d'être un peu trop sensible parce que les gens, ils réagissent à tout maintenant. Tu ne peux pas rien dire sauf enfoncer quelqu'un.
Donc c'est la victoire du politiquement correct?
Oui, oui. Qui explique aussi que pourquoi je suis plus bien reçu en France qu'aux États-Unis. Ma politique n'est pas vraiment politiquement correcte.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets, où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets.
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Francis Cabrel dans De Vive Voix sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie d'Eddy Harris pour son livre Le Mississippi dans la peau, paru aux éditions Liana Levy. Eddy, c'est vous qui avez choisi cette chanson de Francis Cabrel. Pourquoi ?
C'est une chanson que j'aime beaucoup. Ça parle, pour moi, ça parle de la relation. Quand on parlait de mes parents, ça parle de la relation père-fils ou mère-fils ou parent. Enfant. Et c'est quelque chose qui me touche en écoutant cette musique-là. J'étais très ému, en fait.
En l'espace de 30 ans, vous avez changé le Mississippi et l'Amérique sans doute aussi. Un homme noir est devenu président des États-Unis. En 2015, Barack Obama en était à son second mandat à la Maison-Blanche. Alors, quel changement avez-vous constaté dans le pays au gré de vos points d'étape et de vos rencontres tout au long du Mississippi?
Moi, je n'ai pas changé du tout.
Je ne vous connaissais pas il y a 30 ans, mais je vous fais confiance.
Un peu moins de cheveux, les cheveux qui restent sont un peu plus grisâtres. Mais bon, sérieusement, le pays a changé au niveau de l'environnement. Le fleuve est beaucoup plus propre maintenant qu'il y a 30 ans.
Oui, ça c'est surprenant.
C'est extrêmement surprenant. Les animaux que j'ai vus la deuxième fois, qui n'étaient pas là la première fois, C'était un petit choc, mais aussi c'était un plaisir de voir ça. Mais le pays, le but, c'était en fait d'essayer de trouver l'accueil que j'allais recevoir quand j'étais en la descente du fleuve. La première fois, les gens étaient plus ou moins impeccablement bien. Deux épisodes de doute, mais le reste du temps, tous les gens étaient superbes. Et je voulais savoir si avec Trump sur l'horizon, il n'était pas dans la scène politique encore, mais avec Obama dans la Maison Blanche, est-ce que le pays allait reculer et faire virer vers le racisme ou quelque chose de moins bien? Et je voulais savoir si l'accueil que j'allais avoir était comme la première fois, et j'ai découvert que les Américains sont les Américains. La politique n'entre pas dans le quotidien, peut-être maintenant avec tout ce qui s'est passé après Trump. Mais à ce moment-là, un Américain était un Américain et face à un individu dans son canoë, vulnérable, même noir, ils étaient très bien.
Mais en même temps, vous écrivez, ce n'était pas encore le temps de Donald Trump, mais en scrutant les recoins obscurs du pays, on pouvait le voir venir. Si on mettait le nez au vent, l'odeur particulière du changement était dans l'air. Donc, quels signes avant-coureurs avez-vous remarqué le long du Mississippi?
La déception de Donald Trump, quand on parle
de Barack Obama.
Et quand on parlait d'Obama, systématiquement, c'était avec la déception dans les yeux et dans les paroles aussi. On a eu un président noir, le pays est toujours là, il fonctionnait bien. En même temps, tout ce qu'il a promis pour changer le monde, pour changer le pays, pour faire les avancements, il n'a pas réussi.
Elle s'appelle Amanda Gorman. Elle est devenue une star planétaire en lisant son poème « The Hill We Climb » lors de l'investiture de Joe Biden en janvier dernier. Et Diaris, je vous propose de l'écouter et on en reparle juste après.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade?
Le jour venu, nous nous demanderons, où pouvons-nous trouver la lumière dans cette ombre sans fin? La perte que nous subissons est une mer dans laquelle il faut patauger. Nous avons bravé le ventre de la bête, nous avons appris que le calme n'est pas toujours la paix et que les normes et les notions de ce qui est juste ne sont pas toujours la justice. Et pourtant, l'aube est à nous avant que nous ne le sachions. D'une manière ou d'une autre, nous y arrivons. D'une manière ou d'une autre, nous avons survécu et nous avons été témoins dans une nation qui n'est pas brisée, mais simplement inachevée. Nous, les successeurs d'un pays et d'une époque, où une fille noire, mince, descendante d'esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir présidente seulement en se trouvant à réciter pour un président. Quand le jour viendra, nous sortirons de l'ombre, enflammés et sans peur. L'aube nouvelle s'épanouit au fur et à mesure que nous la libérons, car il y a toujours de la lumière, si seulement nous sommes assez courageux pour le voir, si seulement nous sommes assez courageux pour l'être.
Amanda Gorman, The Hill We Climb. Et je remercie au passage ma consoeur de RFI, Amélie Beaucourt, d'avoir lu la version française du poème « La colline que nous gravissons ». Et Diaris, qu'est-ce qu'ils font résonner en vous, ces vers d'Amanda Gorman?
L'optimisme des États-Unis, effectivement. C'est un pays qui est toujours plein de hope et change, comme le titre du livre d'Obama, « Hope and Change ». On l'attend toujours, on les attend toujours, le hope et le change, et on est toujours dans l'optimisme dans ce pays.
Vous parlez d'optimisme, mais en même temps, vous avez des phrases terribles. Rien n'est plus américain que la haine raciale. L'apple pie et le baseball arrivent loin derrière. Comment vous expliquez cette persistance des vieux démons, des stéréotypes, des fantasmes qui suscitent la peur chez les Blancs et qui entraînent des bavures à répétition?
Des bavures élèvent la violence aussi. Et c'est une question à laquelle je n'ai pas une réponse, sauf il faut rester optimiste. Et je pense que finalement, ça, c'est la raison d'être des États-Unis. Sans les Noirs dans le pays, il n'y a aucune raison pour les États-Unis d'exister, de lutter contre ce passé raciste. Ce passé raciste nous donne quelque chose à atteindre. Et ça, c'est la raison pour cet optimisme d'Amanda, et de moi, et de beaucoup de Noirs aux États-Unis.
Alors vous terminez votre récit par cette phrase « Je me suis simplement offert le luxe d'être. Être noir n'est qu'une de mes facettes. Je suis ici, dans ce monde et dans ce pays, sur ce fleuve, et ils m'appartiennent. Je n'ai pas besoin de pistolet. » Elle vous vient d'où cette assurance, cette confiance en vous?
Ça, c'est mes parents qui m'ont gavé de cette confiance, qui m'ont gavé de l'optimisme, qui m'ont gavé de l'appartenance au pays. Et je pense que si plus de Noirs étaient comme moi, pas exactement comme moi parce que je suis un peu fou, mais s'ils étaient plus visibles, s'ils se forçaient d'être visibles, on changerait le monde tout de suite.
Alors, on a beaucoup parlé de politique et de racisme, mais ce livre n'est pas seulement un état des lieux social et politique de l'Amérique, c'est aussi une ode à la nature. Et vous avez gardé intact votre capacité d'émerveillement. Racontez-nous ce lac Itasca qui vous a ensorcelé.
C'est un des lieux le plus majestueux que je connais au monde. C'était fabuleux pour un garçon citadin d'arriver la première fois et la deuxième fois entouré des pins, des pins, des grands arbres. C'était magnifique. Donc ça a réveillé en moi un sens d'être petit face à la nature.
Eddy Harris, nous sommes mercredi et chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec la chronique de Lucie Bouteloup. Bonjour Lucie.
Bonjour Chantal.
Qu'est-ce que vous nous avez mijoté aujourd'hui ?
Eh bien, les fêtes approchent. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche aujourd'hui dans Façon de parler, je vous propose de réviser votre latin de cuisine.
Façon de parler, hein. Façon de parler.
Façon de parler.
Les cuillères à pompe parisiennes, les chinois. Oui, on compte les. Alors après, on a les cornes, il y a la matignon, on va la trousser. La brunoise, gentiment, on va les émonder. Et après, on a la mirepoix, et là, on va les confire.
Vous avez faim? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, dans Façon de parler, je vous emmène au restaurant. Direction Saint-Germain-des-Prés, en plein cœur de Paris, dans un des établissements d'Yves Candebordes. Dans sa cuisine, sa crépite, sa rissole, sa fouette, et entre un foie gras, un lièvre à la royale et une tarte aux poires, le chef me livre quelques mots de son latin de cuisine. Attention, chaud devant.
Du beurre, voyons, du beurre! Faut faire bien, faire grand, faire savoureux.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim.
Enlevez!
Oui, chef! N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire.
Il faut absolument que j'évite de parler cuisine avec vous en public.
Je vous parlerai pendant des heures de cuisine.
Allez, ça marche. Deux entrées du jour. Une barbe de Saint-Jacques, un bouillon de céleri. Et à suivre, il y a un lieu de ligne et un carpaccio tiède de canard.
Oui, chef.
Alors, Yves Candebordes, c'était le coup de feu?
C'est la fin du coup de feu, on va dire. On est en train, juste maintenant, d'attiser légèrement les braises.
Qu'est-ce que ça veut dire, le coup de feu?
Le coup de feu en cuisine, ça veut dire que c'est le départ. C'est un peu comme le sifflet de l'arbitre qui donne le coup d'envoi d'un match.
Alors, tout ça, c'est un peu comme une petite musique dans la cuisine. Justement, il y a des ustensiles dans la cuisine. Je pense, par exemple, au piano. Ou à la mandoline, qui font un petit peu référence à la musique. Qu'est-ce que c'est le piano?
Le piano, c'est le fourneau. C'est là où on travaille, où on dépose les casseroles pour cuire. C'est des fourneaux qui sont en fonte. Voilà, il y a des bruits, des notes sonores qui rappellent un peu le piano. La mandoline, après, voilà, c'est une façon de tailler très finement en faisant un geste avec la paume de la main très délicat. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? On a la fourchette, le diapason.
Comme cet instrument qui donne le la.
Le la, donc c'est une fourchette avec deux pics assez longues. C'est vrai que quand on la tape sur un élément dur, on a un bruit de vibration assez long qui apparaît.
C'est une fourchette qui sert à quoi?
C'est une fourchette qui sert à retourner des volailles souvent. Ça nous permet de piquer, voilà, de rentrer dans l'intérieur des volailles et de pouvoir les retourner avec délicatesse, sans forcer, avec souplesse.
Et puis, il y a un autre pic qui n'a rien à voir, qui celui-ci fait écho à la chasse, qui s'appelle...
Le fusil. Alors, en fin de compte, le fusil, c'est l'ustensile qui nous sert à aiguiser nos couteaux. Et alors, on dit qu'on donne des coups de fusil parce qu'on le tient dans une main et avec le couteau, on glisse avec ce bruit, on a des lames qui s'entrechoquent.
Est-ce qu'il y a d'autres termes dans les ustensiles qui ont des noms spécifiques?
Tout un ustensile a son nom. On a les cuillères à pompe parisienne,
Qu'est-ce que c'est que ça, une cuillère à pompe parisienne?
Une pompe parisienne, c'est des cuillères qui nous permettent de faire des petites billes rondes.
Voilà, ah, de melon, par exemple.
Voilà, on fait des billes de melon, mais au départ, c'était pour faire des pommes de terre. Après, on a les écumoires, on a les chinois. Le chinois qui est une passoire avec une étamine en forme de chapeau chinois. On a les cornes. Alors, la corne, aujourd'hui, est faite en plastique, mais avant, c'était des cornes de vache qui nous permettent de racler pour éviter le gaspillage au fond des casseroles et au fond des saladiers.
Ça n'a rien à voir avec les Maryse, qui sont ces spatules en...
Maryse, voilà, c'est une corne. Je pense que Maryse, en plus, je crois que c'est une marque. On a le cul de poule aussi, qui est assez marrant. On l'utilise en pâtisserie, c'est une forme un peu ronde, avec un fond un petit peu plat, qui sert à battre les blancs en neige, par exemple.
Et puis, il y a aussi toutes les techniques. Je pense par exemple à chemiser. Qu'est-ce que ça veut dire quand on chemise un moule?
Chemiser, c'est prendre un récipient et avant de faire la préparation, on va chemiser sur les bords. Alors on va le chemiser par exemple de légumes ou des morceaux de langue écarlate, voilà, pour y faire après quelque chose dedans.
On contise?
Oui, on contise. Alors souvent, on contise souvent des volailles. C'est glisser un élément. Alors on va contiser, l'excellent, c'est contiser avec de la truffe. C'est prendre la truffe et la glisser, faire des petites entailles et la glisser sous la peau de la volaille.
Qu'est-ce que c'est qu'un matignon?
Matignon, c'est une façon de tailler. Alors, c'est un taillage. Alors, le taillage matignon, c'est taillé en mini-cubes, mais vraiment tout petit.
C'est comme la brunoise?
Non, la brunoise, c'est un taillage au-dessus. Il y a la matignon, qui est taillée vraiment très petit. La brunoise, qui est taillée en, on va dire, un quart de centimètre. Et après, on a la mirepoix, qui est taillée en 1 cm. C'est une précision selon ce que vous allez faire, parce que si vous utilisez une matignon, c'est-à-dire que ça va être une cuisson qui va être courte.
Qu'est-ce que ça veut dire fraiser?
Fraiser.
Ça n'a rien à voir avec le tourneur-fraiseur, j'imagine.
Non, fraiser, c'est qu'on fraise une pâte. C'est qu'on est en pâtisserie, qu'on va faire des pâtes sablées ou des pâtes brisées ou des pâtes levées. Voilà, c'est avec la main, on la dépose sur notre plan de travail, avec la paume de la main, on va lui donner un peu d'élasticité.
Le plan de travail qu'on aura au préalable, fleurer.
Oui, fleurer, c'est prendre de la farine, voilà, et légèrement avec la main, la saupoudrer, mais de façon très délicate. On dirait pratiquement qu'on a mis une couche infime dessus.
Allez, ça marche. Direct. Ongle de bœuf à point et entrecôte de veau.
Alors Yves Candebord, ça va être bientôt Noël, ça va être bientôt les fêtes. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques pour cette période?
Oui, il y a des techniques spécifiques. Les fameux chapons, les chapons de Noël, ou la dinde de Noël, qui sont des volailles d'exception qui viennent du sud-ouest bien souvent. On va les apprêter pour qu'elles soient belles. Et alors, pour qu'une volaille soit belle, on va la trousser. C'est replier ses membres, voilà, pour les mettre un peu sur la hauteur. Pendant la cuisson, on dirait une demoiselle qui est prête à danser. Après, on va prendre les marrons. Gentiment, on va les émonder. C'est-à-dire qu'on va leur retirer leur peau. On va les cuire dans une source de chaleur pour retirer leur peau, voilà, qui n'est plus que la chair et une jolie chair bien brillante.
On les fait blanchir?
Voilà, les blanchir, c'est-à-dire qu'on va les passer dans une source de chaleur très élevée au-dessus de 100 degrés, voilà, qui va saisir leur peau et ça va nous permettre justement d'enlever cette peau, qu'on ait les marrons émondés. Et une fois qu'on aura donc troussé sa volaille rôtie, émondé ses marrons, et bien ces marrons, on les mettra dans le jus de la volaille et là, on va les confire.
Mmh. Merci Yves Candebord, ça me donne l'eau à la bouche. Allez, on passe à table.
Merci Lucie et je vous dis à mercredi prochain. Jamais 203, Eddie Harris, est-ce qu'il y aura une troisième descente du Mississippi?
Ouais, bien sûr, 30 ans entre 1 et 2, 30 ans entre 2 et 3.
Bien sûr.
J'attendrai.
Et vous êtes en forme, donc moi je suis partante. Hein.
Bon, attendons et on y va.
Wait and see. Merci beaucoup Eddie Harris d'avoir été notre invité. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Le Mississippi dans la peau » paru chez Liana Levy. De vive voix touche à sa fin. Merci à Cécile Lavolo qui m'a aidé à préparer l'émission et à Guillaume Ploquin qui l'a réalisé. À demain et portez-vous bien.